Vous écoutez
RMC.
RMC. Ah, il est prêt à flamber la baraque. Hein.
7h-8h.
Votre maison.
Tant mieux. Cette grande baraque inchauffable, merci.
François Sorel.
Christian Pessé.
h 08, nous y sommes, la maison. Christian Pessé, bonjour, rebonjour Christian.
Rebonjour mon cher François.
Approchez votre micro, montez-le un tout petit peu. C'est-à-dire que vous êtes un stagiaire en radio,
ça fait quelques jours
à peine que vous faites ce métier.
J'essaie de regarder ce que font les autres.
Ah oui, c'est ça.
Ah oui, je vois.
Comment ça va Christian?
Eh bien ça va bien,
voilà.
En forme, pas de soucis.
Très bien, prêt à être déconfiné?
Oui, bah oui.
On
est quand même déconfiné. Alors, nous, relativement, puisqu'on vient en studio deux semaines. Donc,
après, vous habitez à Caen, hein,
oui.
Donc tous les week-ends, vous faites quand même pas mal de kilomètres pour venir jusqu'ici.
C'est un plaisir, l'autoroute, en ce moment.
Oui, c'est ça.
Des fois, on se sent un peu seul, un peu perdu.
Vous pourriez faire le trafic, non?
D'ailleurs, oui,
ça pourrait être pas mal. On vous appelle quand vous êtes sur l'autoroute. Bah, écoutez, tout va bien ici, tout roule.
C'est bien.
Bon, Christian,
oui.
Au menu de cette heure dédiée à la maison, pas mal de sujets. On va parler clim et VMC. Tiens, est-ce que ces appareils qu'on a à la maison seraient susceptibles de véhiculer des virus et notamment le Covid?
Et puis la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant on va, notamment avec les clims, on entre maintenant seulement dans la saison où la clim va être utile, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entretenir?
Qui
il faut s'adresser? Est-ce que justement on peut désinfecter les clims? C'est un sujet qui préoccupe pas mal de gens.
Et puis notre gros dossier de ce samedi matin, comment relancer les travaux pour la maison après le confinement?
Ah oui, évidemment, il y a beaucoup de travaux qui ont été interrompus, les entreprises étaient elles-mêmes en confinement, et donc faut y aller, faut que ça se relance. Déjà, il y a des travaux qui ont continué pendant cette période.
Petit à petit, progressivement, des chantiers ont repris. Hein.
Voilà, mais est-ce que lorsqu'on a une entreprise qui vient, quelles sont les précautions à prendre? Qu'est-ce qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'on doit fournir aux ouvriers qui vont intervenir? Est-ce qu'il faut procéder à un cheminement particulier dans la maison, un peu comme dans les entreprises où on voit maintenant des traits par terre avec des flèches? Bon, voilà, tout cela, on
les masques, les gels, etc.
Qui doit les fournir? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'entreprise?
Bien sûr.
Voilà, toutes ces questions très concrètes. On va en parler avec Jacques Chanu, qui est le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment.
Voilà, on évoquera aussi les stores extérieurs, les entretenir, les remplacer. Ça sera votre conseil béton, hein, Christian. Et puis, bien entendu, toutes vos questions, bricolage, maison, 32-16, l'appli RMC. Une heure dédiée à la maison, hein, c'est exclusif RMC. Et c'est chaque samedi chez nous, entre 7h et 8h. Merci d'être là, bienvenue. On attaque avec Brigitte. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Je vous appelle au sujet d'un volet roulant solaire de la marque Velux, installé en mai 2014.
Oui.
Alors le volet ne reste pas fermé, c'est-à-dire qu'il descend un petit peu, puis au bout de quelques secondes, il remonte. Donc il répond plus à la commande.
Mmh.
Alors après recherche sur un forum, il semblerait que la panne soit liée à un défaut concernant la batterie, qui ne possède pas de système de dérivation, enfin je ne connais pas trop le terme.
Oui.
Pour éliminer l'excès d'énergie solaire stocké.
Voilà. Alors,
qu'il aurait rendu HS, en fait.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'électricité que le store ne se baisse pas, c'est ça?
C'est pas ça. C'est la batterie qui devient défaillante, puisqu'elle est rechargée en permanence. Et donc, elle arrive à être trop rechargée. C'est un phénomène de saturation.
Il y a trop de soleil chez vous, Brigitte. Il faudrait que vous déménagiez.
Voilà. Si vous pouviez mettre un parasol ou un store.
Allez à Caen. Allez à Caen, par exemple. Il y en a moins.
Ouais, ça va en ce moment. D'un autre côté, votre store, il a 6 ans, hein, c'est ça?
Bientôt.
Mais
la panne a été constatée il y a quelques mois, en fait. Hein.
Mais elle était constatée, parce qu'en général, c'est garanti 5 ans. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà, la batterie est garantie 5 ans, donc vous êtes sorti de la zone de garantie. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'obsolescence programmée, mais Velux est une marque sérieuse.
Oui.
C'est du scandinave, hein, donc... je pense pas qu'il y ait ce type de problème. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
La batterie est cuite, en fait. Il faut changer la batterie.
Ouais, la batterie est cuite. Ouais.
C'est dingue.
La batterie est cuite. Alors bon, c'est pas très compliqué à changer, mais je pense que ça doit être comme sur beaucoup de marques, c'est qu'il y a une sorte de kit qui fait qu'il n'y a pas seulement la batterie avec. Et voilà, il doit y avoir aussi le panneau, le micro panneau solaire, tout ça. Donc effectivement, ça coûte un peu d'argent.
C'est dommage parce que c'est une super solution, ça.
Ah, c'est une super solution, mais c'est un problème.
Mais si ça n'a que 5 ans d'espérance de vie, c'est court quand même pour des volets, non?
Oui, pour le volet non. Le volet, lui, il est encore en parfait état.
Non, mais pour un volet roulant, c'est motorisé.
C'est la batterie. Je peux en parler si vous voulez avec des gens de chez Velux pour voir si on peut faire quelque chose pour vous puisque vous êtes juste en sortie de garantie.
Ça serait bien.
Peut-être qu'on peut vous aider, mais je sais qu'il y a des super bricoleurs. Je vais vous dire qu'ils vont jusqu'à démonter tout l'ensemble et à mettre des piles rechargeables, des batteries rechargeables. Vous savez.
Tiens.
Il faut être bricoleur là, quand même, hein, pour.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la batterie d'origine et mettre autre chose finalement.
Voilà, c'est possible, mais enfin c'est un gros boulot. C'est effectivement ce problème de charge permanente. Alors vous savez, il y en a, on s'en sert pas tout le temps.
Donc on ne doit pas puiser de l'énergie de la batterie.
Donc elle reste toujours pleine. Il y a toujours du résiduel important.
Ça veut dire que de temps en temps, il faudrait la faire fonctionner pour utiliser la batterie.
Oui. Alors ça, il y a des gens qui en ont marre du problème et du panneau photovoltaïque et qui carrément chintent le panneau photovoltaïque et remettent un transfo pour faire fonctionner avec le courant. Continue classique.
Oui, mais on perd tout l'intérêt. L'objectif, c'était pas tirer des câbles et être.
Bien sûr. Mais donc, j'ai pas d'autre solution que de vous dire qu'il va falloir remplacer la batterie. Alors, certains aussi, il y a une solution qui est de temporiser la recharge de la batterie, c'est-à-dire de la faire recharger pendant 2 heures ou 3 heures par jour. Mais c'est vrai que c'est un problème. Mais j'en parlerai avec les techniciens de chez Velux et je reviendrai. Ça doit être.
Ça doit progresser en plus, non? De génération en génération. Je pense qu'ils doivent apprendre de leurs erreurs.
Je vous promets que je vais les interroger et voir si on peut faire quelque chose pour vous.
D'accord. Je vous remercie par avance. Et puis, je vous remercie pour tous vos conseils et puis je vous souhaite une bonne journée.
Mais vous habitez où, Brigitte?
Secteur de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire? Oui, d'accord.
Oui, bah oui, il y a du soleil. Hein.
Ah oui.
Merci Brigitte, merci à vous.
Merci à vous aussi, au revoir.
Voilà, et si tout comme Brigitte, vous voulez joindre Jean-Luc, ça sera demain. Jean-Luc, là, vous vous appelez Christian, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, Christian PC. Oui, c'est ça.
Vous pouvez joindre Christian au 3216, l'appli RMC Direct Studio, vos questions maison aussi hein, via le smartphone. Avec toujours, je le dis et je répète, votre numéro de téléphone. Allez, notre dossier de ce samedi matin. Maintenant, le conseil de l'expert, pardon.
RMC, votre maison.
Le conseil béton. De Christian Pesset.
Christian,
oui.
On va évoquer les stores extérieurs.
Ben oui.
Les entretenir ou les remplacer?
Oui, alors il commence à faire beau, on a été très très confinés, c'est le cas de le dire, à l'intérieur, et donc on sort, on fait fonctionner le store ban au-dessus de la terrasse, et là on s'aperçoit qu'il a pas forcément une bonne tête. Alors est-ce qu'il faut le nettoyer, est-ce qu'il faut le rénover, est-ce qu'il faut carrément le changer? Je dirais que ça dépend très largement de l'état du store et de l'éclat aussi. Est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il est encore assez esthétique, vous savez, les stores à rayures avec des couleurs vives, faut toujours faire attention. Moi, je dis toujours, ne prenez pas des stores avec des couleurs pétantes parce que fatalement, c'est exposé au soleil et donc ça va passer. La première des choses à faire, c'est évidemment de le dérouler, c'est de le dépoussiérer parce que il a pu y avoir de la poussière accumulée dans tout ça. Il faudrait le faire plusieurs fois par an, ce petit coup de nettoyage. On néglige généralement de le faire et surtout si on est dans un environnement qui est poussiéreux. Alors si on est proche d'une route, si on est proche aussi si on est en milieu rural proche de terrains agricoles qui dégagent beaucoup de poussière lorsqu'on fait certaines opérations agraires, donc il faudrait passer un petit coup de nettoyage déjà de temps en temps. Et puis si vraiment il est sale, la première des choses à faire, c'est tout simplement un nettoyage à l'éponge ou au balai brosse s'il est de grande dimension, tout simplement avec de l'eau savonneuse, suivi d'un rinçage au jet. Attention, pas de nettoyeur haute de pression sur les stores. Ça les dégrade, ça entrave leur étanchéité. Donc, non. Et puis après, vous allez faire des trous dedans, hein, très souvent, surtout s'il est un peu cuit par le soleil. Si vraiment il y a des traces noires, des traces, c'est des mousses, c'est des algues, là, on n'est pas dans les lichens tellement, c'est des algues, eh bien, vous pouvez avoir recours à un nettoyant rénovateur. Ça va en même temps raviver les couleurs, mais soyez prudents parce que il existe beaucoup de types de toiles sur le marché. Vous avez la plupart sont des toiles de type plastique. Il y a de l'acrylique, il y a du polyester, il y a du polypropylène, il y a du PVC microporeux et tout ça, ça réagit pas forcément bien aux différents nettoyants. Donc c'est prudent que de faire un essai dans une partie peu visible, par exemple le bout du store qui a été donc déroulé. Faites attention parce qu'il y a aussi des stores en coton et là c'est très fragile et il faut faire d'ailleurs le coton on n'en trouve pratiquement plus, c'est pour ça, c'est parce que c'était extrêmement fragile. Alors faites un petit essai par exemple sur le lambrequin, vous savez la partie la lèvre qui descend devant le store, faites un essai là déjà pour voir comment ça réagit. Alors une fois que vous avez nettoyé votre store, il peut être nécessaire ou intéressant d'appliquer un produit protecteur imperméabilisant qui va donc garantir votre store. Alors, attention pendant toutes ces opérations avec des produits de nettoyage un peu agressifs, il faut que vous protégiez les parties métalliques de votre store. Alors il y a un truc, c'est le mieux, c'est encore le film alimentaire. C'est facile à mettre, c'est moins facile à enlever, mais faites attention parce que sinon vous avez des produits qui peuvent attaquer donc la peinture et le métal en lui-même. Profitez-en, pulvérisez un petit peu de dégrippant sur les articulations parce que ces satanés Storban, ça a toujours tendance à devenir grinçant quand on les déplie et quand on les replie. Ça serait dommage de pas en profiter. Alors faites attention avec le dégrippant, n'allez pas tâcher votre store après de l'avoir nettoyé, ce serait peut-être embêtant. Alors dernier point, je dirais attention, ne mettez pas votre sécurité en jeu, c'est-à-dire que ne faites pas ça tout seul, montez sur un escabeau branlant, une échelle double pan mal foutue et puis vous allez devoir vous raccrocher au store, c'est pas forcément le meilleur, donc faites attention parce que ça peut être dangereux. Et puis si tout ça marche pas, il va falloir le remplacer, le remplacement d'une, ça dépend de la surface du store, mais c'est pas forcément une fortune. Attention quand même à trouver un bon installateur. Il y a des gens sérieux sur le marché.
Comment les trouver? Regardez un petit peu
l'ancienneté de l'entreprise. Voir la marque qui est représentée.
Oui, bien sûr.
Bon, il y a des marques comme Francia Flex, comme Store de France, des choses comme ça, qui sont des bonnes marques. Et donc,
qui vérifient malgré tout la qualité des installateurs.
Bien sûr. D'accord. Et alors, des automatismes. Hein, si vous changez votre store, il faut absolument qu'il soit motorisé et il faut qu'il soit asservi au soleil, mais surtout au vent, parce que le problème, c'est souvent les coups de vent. Donc, vous avez un petit anémomètre, hop, qui fait que le store se replie. Là, les grands spécialistes, c'est Samfi, notamment, il y a Mubendorf aussi qui doit en avoir.
Très bien, 7h21, c'est RMC, le week-end des experts, la maison. Alain est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Alain.
Bonjour Alain.
Vous nous appelez d'où?
J'appelle d'Auvergne, pas loin de Clermont-Ferrand.
Parfait. D'accord. Et on vous écoute, Christian, on vous écoute.
Alors voilà, j'ai deux portes de garage, c'est des portes sectionnelles. Oui. Un aluminium légèrement martelé, vous savez, c'est pas un appartement en lisse, qui ont 15 ans et qui ont terni pas mal. Je me demandais avec quoi les nettoyer pour raviser un petit peu la couleur.
Vous savez, là, on est dans des produits qui sont voisins de ceux dont je viens de parler, hein, qui sont les produits pour store. Vous pourriez essayer un rénovateur de store. Peut-être que ça va peut-être redonner un petit coup de jeune. Le problème de toute partie en métal, et là, en plus, en aluminium, c'est un problème aussi d'oxydation. Et là, malheureusement, j'ai pas beaucoup. Il y a des rénovateurs pour métaux. Alors, la règle, c'est aussi toujours d'aller, de faire d'abord voir ça sur une petite partie peu visible si vous utilisez des produits du commerce, notamment des rénovateurs métaux. Mais si vous avez deux portes de garage, ça va vous coûter bonbon, hein, parce que évidemment oui. c'est des produits qui sont faits normalement pour nettoyer ou pour rénover un petit objet en métal. Bon, là je ne garantirai pas. Peut-être aussi tout simplement un repolissage.
Oui, un lustre en voiture.
Voilà, un lustre en voiture. Essayez avec un. Là aussi, essayez dans un coin avec un polish, voir si ça ne va pas être la solution. Mais vous allez voir ensuite une finition qui sera plutôt brillante, alors que peut-être que votre porte, elle était plutôt mate, puisque vous me dites qu'elle est un peu martelée, quoi.
Oui, elle est un peu martelée. Alors bon, elle était peut-être un peu mate. Ça date maintenant, je me rappelle plus trop.
Ouais,
mais bon,
si
elle est brillante, à la limite, ça, si ça...
Essayez ça. Traitez-le comme une carrosserie. Essayez avec déjà des produits pour store, mais je ne garantis pas, parce que évidemment, c'est pas fait pour le métal. Mais c'est peut-être cette solution du repolichage de vos portes avec une perceuse avec au bout un... Ou si vous pouvez trouver, évidemment, une lustreuse, c'est encore mieux. Mais sinon, vous pouvez avoir un plateau rotatif qui se met au bout d'une tout simplement au bout d'une perceuse.
Parce que ce que j'avais peur, c'est que comme c'est martelé légèrement, que avec la polisseuse,
oui,
on rentre pas bien dans les... Parce que c'est pas vrai, c'est pas lisse.
Oh quoi. Oui, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça va vous redonner peut-être un coup de jeune à votre... parce qu'après il y a des peintures pour l'alu, mais ça va pas tenir là, avec le séquentiel. Donc, je pense pas.
Christian, vous êtes un spécialiste du polichage?
Non, on n'est plus tellement. C'est vrai qu'autrefois, il y a 30 ans, les peintures des voitures, il fallait régulièrement les repolicher. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Quoi. Il y a des vernis. Donc, ça, on utilise beaucoup moins le polish.
Eh oui. Et que fait la polish?
Et que fait la polish?
C'est la question, on va dire, un peu existentielle.
Surtout sur la route, parce que c'est la polish de la route.
C'est samedi matin. Alors, il est 7h24. On revient dans un instant. La météo. Et on repartira avec notre dossier de ce samedi matin. Comment relancer les travaux, tiens, pour la maison après cette longue période de confinement où tout était à l'arrêt ou presque? C'est pas forcément évident.
Non.
On en parle avec Christian et puis notre invité, Jacques Chanu, qui sera là. Qui est le président de la Fédération Française du Bâtiment. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, justement, vous voulez relancer travaux à la maison, hein, justement, après ce confinement. Vous voulez témoigner, poser vos questions. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite, on revient dans une minute.
RMC,
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h27, un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir choisi RMC, puis on salue tous ceux qui travaillent ce samedi matin et qui nous sont fidèles. Christian Pesset,
oui.
On va attaquer maintenant notre dossier de ce samedi. Comment relancer les travaux pour la maison après le confinement?
Voilà, parce que beaucoup de chantiers ont été interrompus, des chantiers évidemment de construction, mais aussi des chantiers de rénovation, ou bien des chantiers qui auraient dû commencer il y a un mois et qui évidemment ont été mis en panne. Nous avons avec nous Jacques Chanu, qui est président de la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Très bien. Alors, Jacques Chanu, vous avez été en première ligne sur les difficultés justement de ce monde de la construction. Les chantiers maintenant peuvent repartir. On va être sorti du confinement. Plus rien véritablement ne se pose à la relance.
Alors, les chantiers pouvaient même repartir avant, oui. Mais ce qui s'oppose à la relance lundi comme hier, ben, ça reste la confiance chez les particuliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinstaure un climat de confiance et de sécurité entre le client et le compagnon ou l'artisan qui vient chez lui. C'est tout bête, hein, mais c'est ça qui est important.
Tout à fait. Alors, il y a des questions concrètes que les gens se posent. Moi, j'ai eu pas mal de demandes, je reçois des mails. Est-ce que, par exemple, lorsque une entreprise va venir chez vous, est-ce que d'un côté comme de l'autre, il faut, par exemple, une espèce de certificat médical pour dire que vous n'êtes pas contagieux? Non, quand même pas.
Non, on n'en est pas là, mais d'abord, on serait bien, à mon avis, ça serait bien difficile d'avoir des certificats parce que j'ai vu la difficulté d'avoir des tests et je vois pas comment on pourrait avoir des certificats. Non, par contre, du côté de l'entreprise, il y a des questionnaires qui tous les matins sont faits auprès des compagnons. Voilà, des questionnaires assez classiques sur l'état de santé qui pourraient révéler qu'il y a un début d'œuvre. Et ben, on demande en fait la même chose aux clients. C'est-à-dire que je pense qu'il doit avoir un esprit de responsabilité des deux côtés, de se dire que si on a le moindre doute, le moindre soupçon sur un départ de maladie,
de COVID,
il vaut mieux s'abstenir d'un côté ou de l'autre. Je crois honnêtement, hein, qu'au-delà de toutes les mesures qui peuvent être imposées ou recommandées, je crois que c'est surtout un comportement de bon sens qui est nécessaire, mais encore une fois, des deux côtés.
Est-ce qu'il faut mettre à disposition un certain nombre d'éléments à disposition de ceux qui vont intervenir? Je sais pas, je pense, est-ce qu'il faut leur donner la possibilité d'aller se laver les mains, d'avoir du gel, d'avoir pourquoi pas des gants, je sais pas. Est-ce que les masques, qui fournit ça? C'est pas le client, c'est l'entreprise.
Tous les équipements individuels, c'est bien sûr à l'entreprise de les fournir. Par contre, l'eau sur le chantier, hein, chez le particulier, c'est quelque chose d'important parce que la meilleure des choses, c'est de se laver les mains, on le sait bien, mais il faut qu'il y ait un accès, il faut qu'il y ait un poids d'eau et du savon et des serviettes jetables, hein, à usage unique, qui permettent aux ouvriers de se laver les mains. Mais vous savez, dans cette période de crise sanitaire, comme d'habitude, donc il est important d'avoir de l'eau sur les chantiers pour se laver les mains. Donc voilà, mais je pense que vraiment, ce qui reste très important dans l'échange, hein, c'est la distanciation physique. Ce qui est essentiel, c'est au-delà de la contamination, on pourra y revenir, c'est que chacun puisse travailler avec la distanciation physique suffisante.
Ça veut dire, est-ce qu'il faut, par exemple, éviter les contacts? Est-ce qu'il faut interdire un peu le chantier? Dans une maison, c'est pas toujours simple. Il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, il y a les animaux domestiques.
Puis j'imagine qu'il y a des tâches aussi où on est obligatoirement proche l'un de l'autre, non?
Non, avec le client, non.
Pas avec le client, mais entre ouvriers.
Ah ben, entre ouvriers, oui. C'est pour ça qu'on a fait un guide, hein, qui permet de savoir quel type de comportement, quel équipement avoir, si on est à moins d'un mètre l'un de l'autre. Mais ça, c'est le sujet de l'entreprise. Oui. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est vis-à-vis du client. Il faut que le client, effectivement, laisse faire le travail par les gars. Et puis lui-même se protège, se retire.
Et je pense qu'il faut vraiment là conseiller la prudence au particulier qui fait intervenir une entreprise, parce que faut bien le dire. Très souvent, excusez-moi l'expression, mais on emmerde les gars qui sont en train de bosser sur le chantier, hein, faut le dire. On est dans les pattes, on vient voir, on regarde. Oui, oui, c'est du vécu, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut vraiment s'abstenir d'être sur le chantier, quoi.
Ouais, je pense que l'échange peut être possible, bien sûr, et même indispensable. On n'est pas obligé d'être à moins d'un mètre. Donc, voilà, encore une fois, vous savez, ce qui est recommandé dans la vie de tous les jours désormais, sur cette fameuse distanciation physique, il faut qu'elle soit même à l'intérieur de l'appartement, à l'intérieur de la maison, il faut qu'elle soit respectée parce que la maison, l'appartement ne protège en rien, bien évidemment.
Et alors là, tout le monde porte des masques, là?
Alors,
dans le relationnel.
Hein, c'est-à-dire que porter un masque lorsqu'il n'y a personne autour, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt particulier. Oui. Alors, évidemment, il y a des préconisations très particulières lorsque vous intervenez chez quelqu'un qui est malade. Là, on ne parle pas du tout des mêmes choses. Là, il faut un masque FFP2 pour pouvoir intervenir, que le client lui-même porte à minima un masque chirurgical et autres. Alors là, on parle d'intervention urgente, bien sûr. Hein. C'est lorsque vous devez intervenir parce que, je ne sais pas, un ballon d'eau chaude est lâché chez quelqu'un qui est malade du Covid ou qui a un soupçon de Covid. Bien évidemment, il faut quand même intervenir, hein, parce que c'est important pour lui. Mais par contre, là, alors, les préconisations ne sont pas du tout les mêmes.
Oui.
Mais encore une fois, je crois que là aussi, il faut faire...
C'est une question de bon sens, évidemment.
Quand vous êtes malade et que ce n'est pas des travaux urgents, il vaut mieux les décaler.
Ouais. Voilà, alors, j'ai vu, parce qu'évidemment, il circule plein de choses sur Internet, des bonnes et des moins bonnes. J'ai vu quelqu'un, une structure qui disait de protéger, par exemple, avec du film alimentaire, les rampes, les poignées de porte, etc. Est-ce que c'est excessif ou est-ce que ça peut être une bonne précaution?
Bah, écoutez, comme c'est toujours le même problème, il y a des avantages et des inconvénients. Je crois ce qu'il faut surtout, c'est bien désinfecter à chaque fois que le gars part en fin de journée, désinfecter les surfaces de contact principales, c'est-à-dire en gros les poignées de porte, effectivement les rampes, les lunettes de WC, enfin bon voilà, les lunettes de WC, bref.
Le robinet par exemple.
Le robinet, des choses comme ça. Mais encore une, enfin voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait des réflexes qui s'installent, et encore une fois, des réflexes des deux côtés. Ce qui est important, c'est la confiance entre le client et la personne qui intervient chez lui. Il lui fait confiance puisqu'il l'a choisi pour refaire techniquement un certain nombre de choses, mais il faut qu'il y ait la même confiance, j'allais dire, sanitaire, qui s'installe entre la personne qui travaille et le client.
Jacques, Christian, on a Jean qui nous a appelé au 3216 et qui a une question. Bonjour Jean.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue Jean sur RMC.
Oui, alors voilà, je dois réceptionner un appartement qui était prévu fin juin, mais bon, comme il y a eu un arrêt de près un mois, deux mois, là, c'est reporté sans doute après les vacances. Comment ça va se passer la réception? Parce que là, on a un contact avec la personne, on va rentrer dans un appartement qui est neuf, mais qui a été où il y a pas mal de personnes qui ont travaillé à l'intérieur. Est-ce qu'il faut prévoir de le désinfecter? On parlait de poignées de porte, choses comme ça.
C'est une très bonne question. Et vous avez,
très bonne question.
C'est génial parce que vous avez devancé celle que justement j'allais poser.
C'est formidable.
C'est en vous écoutant ce matin, j'ai pensé à ça. Je dis tiens, je vais passer un petit coup de fil.
Vous devriez réceptionner votre appartement, vous ne savez pas encore quand, parce que j'imagine que tout a été retardé, c'est ce que vous disiez.
C'était prévu fin juin, donc je pense qu'il y aura au moins deux mois après les vacances
maintenant. Ouais, certainement. D'accord. Jacques Chanu, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement les précautions lors de la réception?
Là, il faut changer tout un process, non, j'imagine?
Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il faut, aussi se rappeler que le virus, il ne reste pas installé pendant 15 jours. Hein. Donc, on sait bien tous, on voit bien qu'on nous dit qu'il faut laisser les courses dehors et autres. Donc il y a des process qui là aussi doivent exister. Il faut très bien aérer avant la réception, pendant sans doute plusieurs heures, le logement en question. Et puis après, c'est encore une fois que les surfaces de contact où il faut effectivement avant la réception essayer de nettoyer. L'appartement neuf, c'est pas là où ça nous inquiète le plus parce qu'il est forcément nettoyé avant la réception.
Oui.
Donc voilà.
Mais c'est plus la réception des chantiers de rénovation, quoi.
Ouais, mais par contre, il est clair que là aussi, je pense que il y a des habitudes qu'il va falloir prendre sur la distanciation physique. Voilà, c'est bon, ça part. Hein, on est tous conscients de ça, surtout dans notre secteur où les gens sont plutôt chaleureux. Mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec pendant un certain temps,
c'est sûr,
pour se protéger, mais surtout pour protéger les autres. Mais honnêtement, dans le neuf, ça nous inquiète beaucoup moins en termes de réception qu'évidemment des travaux dans l'ancien.
Très bien, merci Jacques Chanu pour tous ces bons conseils. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment.
Merci beaucoup. Alors, intéressante cette question, Jean, sur la réception des appartements.
Oui,
j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans cette situation aussi.
Très bien. Nous avons avec nous maintenant Roland Bouquet. Bonjour.
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 Bonjour Roland. Vous êtes vice-président, vous, du SINASAV. C'est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Autrement dit, c'est les personnels de maintenance, on peut dire, des systèmes de chauffage, de ventilation et de clim.
C'est bien ça, oui, tout à fait.
Donc, alors, pourquoi je vous ai demandé d'intervenir? Parce que là aussi, j'ai reçu un certain nombre de questions et d'inquiétudes au moment où on va remettre en marche, avec le beau temps, notamment les systèmes de climatisation. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de la possible contamination par justement les systèmes, alors de clim, mais aussi de ventilation, et au moment où on va les relancer peut-être? Je parle de la clim. Est-ce qu'il faut les désinfecter? Quelle est votre préconisation là-dessus?
Alors, la réponse est non, Christian. En fait, selon le Haut Conseil de la Santé publique et aussi de l'OMS, toutes les études menées à ce jour indiquent que le virus est principalement transmissible par contact avec des gouttelettes respiratoires.
Mais on a entendu parfois des interrogations parce que plus on avance et plus on entend que les gens disent qu'ils savent rien, y compris les grands spécialistes. Alors, donc il y a peut-être une précaution à prendre de toute façon.
On sait quand même que le virus se transmet principalement en portant des mains contaminées aux muqueuses, comme le nez, la bouche et les yeux. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune étude fiable sur une contamination par voie aérienne.
D'accord. Alors, si malgré tout.
Donc à ce jour, pas de contre-indication à maintenir en fonctionnement les installations de climatisation.
Okay.
Bien au contraire, elles permettent, si elles sont entretenues, de conserver une bonne qualité d'air intérieur.
Alors bon, il y a l'entretien classique qu'on va pouvoir demander. Mais est-ce que si je suis vraiment pointilleux et inquiet, est-ce que je peux demander à ce qu'on désinfecte, par exemple, mes filtres ou mes pales de ventilateur de la clim
alors,
ou de la VMC?
Oui, aujourd'hui, il existe des produits nettoyants et désinfectants que les professionnels utilisent. Alors, ce sont des produits, on va dire, 3 en 1, qui répondent aux normes fongicides, bactéricides et virucides.
Oui.
Donc, une fois par an, un entretien conforme, je dirais, aux règles de l'art est à réaliser par un professionnel.
Et ça, pour toutes les clims, Roland, excusez-moi.
Oui.
Pour toutes les climatisations, à partir du moment où on a un système de climatisation, tous les ans, il faut faire cette opération.
L'obligation, elle est légale. Il y en a une, c'est tous les 2 ans, non? Je me trompe?
Alors aujourd'hui, nous attendons le décret, qui devrait paraître début juillet.
Et jusqu'à présent, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, mais par contre, à partir du 1er juillet, on devra donc entretenir ces climatisations une fois tous les 2 ans.
Alors attendez Roland, c'est une opération complexe qui nécessite le déplacement d'un spécialiste ou alors on peut le faire?
Je pense que dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, il est préférable d'appeler un professionnel qui puisse se charger de nettoyer donc éventuellement la climatisation, mais sur un split de clim, par exemple, il faut nettoyer et désinfecter, comme je le disais tout à l'heure, avec un produit 3 en 1, les filtres, la batterie et le bac à condensat.
Oui. Le bac à condensat, c'est le petit bac qui récupère l'eau qui résulte de la condensation. Hein, c'est ça.
De la batterie.
D'accord. Ça sert à rien de pulvériser tout ça de gel hydroalcoolique.
Ah non, pas du tout. Le produit utilisé est un produit qui se met sur le filtre et sur la batterie.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Alors là, je vais passer à la VMC. Est-ce qu'il y a une différence entre une simple flux qui puise l'air à l'extérieur et qui le rejette tout simplement et une double flux qui, elle, fonctionne finalement un peu en circuit fermé
et redistribue l'air.
Voilà. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Est-ce qu'il y a plus d'inquiétude? Alors, parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui est contaminé chez lui et qui, donc, avec peut-être une VMC simple flux, les choses partent à l'extérieur. Avec une VMC double flux, on est plus en confinement, non?
Alors c'est une très bonne question. En fait, écoutez, on retrouve 2 types de VMC en France. La majorité des VMC sont des VMC simple flux, classiques, que l'on retrouve dans les logements. Le risque de contamination est d'autant plus limité que l'habitation se trouve en dépression. Voilà. Alors, par contre, l'occupant doit s'assurer que sa VMC fonctionne. Alors, avec un test simple, vous le connaissez, test de la feuille de papier devant la bouche d'aspiration.
Absolument.
Et vérifier que ses entrées d'air, bien sûr, ne soient pas obturées et les déboucher ou les nettoyer le cas échéant.
Alors, attendez 2 secondes. Rappelons, une VMC simple flux, on a une aspiration dans le grenier, on a des bouches dans les pièces, on va dire, humides, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, et puis on puise l'air extérieur par des grilles de ventilation. C'est ça. Ça, c'est le plus simple.
Voilà.
Mais la VMC double flux, en revanche, là, il n'y a pas d'entrée d'air dans les fenêtres, par exemple. On a donc un groupe dans le grenier qui aspire l'air à l'extérieur, qui le fait circuler dans la maison et qui le récupère pour le rejeter à l'extérieur avec, entre les deux, un échangeur thermique. On peut dire ça?
C'est ça, voilà. On a un échange thermique entre l'air qui rentre dans le logement et l'air qui sort, donc de manière à réchauffer notre air qui rentre, notre air frais. Alors, en plus, pour une VMC double flux, la différence avec une simple flux, c'est qu'on a des filtres. Et là, on revient sur le système de la climatisation. Ce sont des filtres qui sont à nettoyer ou à remplacer périodiquement, selon bien sûr les préconisations du fabricant.
Voilà, mais si on a par exemple été malade soi-même du Covid-19, on peut avoir intérêt à demander une désinfection de ces filtres avec les produits dont vous parliez tout à l'heure.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça, c'est conseillé ou finalement ça ne servirait pas à grand-chose?
Non, c'est vraiment conseillé. Il faut le faire, il faut appeler un professionnel. Si en plus vous avez effectivement été malade, il faut venir désinfecter votre système de VMC et de clim.
Ouais. Alors ceci étant, si après avoir désinfecté, il y a à nouveau quelqu'un qui rentre avec le Covid-19, tout est à recommencer.
Oui.
Encore une fois, toutes les études montrent que ce virus ne se transmet pas par voie aérienne. Mais ce sont des gouttelettes respiratoires.
Ah. On est d'accord aussi qu'il faut laisser fonctionner ces VMC. Parce que moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails en disant « Est-ce que je dois arrêter ma VMC pour éviter une contamination qui vient de l'extérieur ?» On est d'accord qu'il faut le laisser. Et même ouvrir ses fenêtres, il y a même une recommandation qui a été faite d'ouvrir ses fenêtres pour ventiler plusieurs fois par jour.
Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut assurer un renouvellement d'air avec de l'air frais qui rentre dans le logement. Donc, laissez bien vos VMC fonctionner.
D'accord. Entendu. Comment trouver un technicien? En allant sur votre site, sur le site du CINASAV, il y a des adresses de pros?
Eh bien, c'est ça. On peut s'adresser donc aux entreprises spécialisées en maintenance donc des équipements, comme celle adhérente du CINASAV. Alors, vous retrouverez un annuaire des professionnels
ah oui, ça, c'est
par
bien.
Département disponible sur le site www.cinasav.fr.
Et CINASAV, ça s'écrit S-Y-N-A-S-A-V.
Voilà. Tout à fait. Et j'aimerais souligner aussi, comme nous intervenons oui. chez les particuliers, à ce titre, donc le CINASAV est à l'origine d'une initiative remarquable, c'est-à-dire d'une commande groupée de plus de 700 000 masques FFP2, pour oui. ses adhérents, bien sûr, afin de protéger les clients et les techniciens lors des interventions au domicile des particuliers.
Très bien.
Merci Roland Bouquet.
Merci Roland Bouquet. Vous êtes donc vice-président du CINASAV.
Alors, il est 8h moins le quart, on revient dans un instant. Pierre sera avec nous. Il aimerait savoir, vous êtes un spécialiste en bâche,
Christian? J'essaie de bâcher mes travaux, mais...
Ouais. Bah parce que là, il va falloir réviser. Pierre a une question justement là-dessus. Bon. Ah, je le vois un peu paniqué, Christian.
Non, mais vous savez, c'est toujours
j'adore
c'est les surprises maintenant.
Mais oui, et puis de temps en temps, c'est bien.
Et quelques écrans sont éteints, et donc c'est la surprise absolue.
Oui,
et
puis c'est bien que vous stressiez un peu parce que vous ne savez pas trop quelle question va vous poser Pierre. Et puis.
Ne nous bâchons pas, hein,
non, pas entre nous en tout cas. Hein. No bashing, comme on dit. Ouais. Et puis le coup de cœur de Christian, ce sera en toute fin de ce rendez-vous maison. Merci d'être avec nous. 32-16, hein, si vous voulez poser votre question. Bricolage maison, à tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 7h47, on est de retour. Merci de nous rejoindre sur RMC. C'est le week-end des experts. Je vous rappelle que tout à l'heure, entre 8 et 9, Christian Ricca sera là pour notre rendez-vous forme santé. On fera un point, évidemment. Sur la situation Covid-19 en France cette semaine. Et puis, on s'intéressera à notre poids. Le confinement nous a fait prendre du poids, Christian. Pas vous, Christian Pessé?
Moi, j'en ai perdu.
Ah ben, bravo. Voilà.
J'en ai perdu. Le régime soupe est formidable.
Le régime soupe
ouais.
Eh bien, ouais. Vous savez quoi?
Une soupe le soir.
Si vous mangez qu'une soupe le soir.
Oui, mais elle est
donc
très
pas
copieuse.
Donc pas de petit déjeuner, pas de déjeuner.
Un peu de fromage, je ne sais pas ce que nous dira Christian. Un peu de fromage, un yaourt, tout ça. Mais moi, je trouve... et des légumes.
Une baguette, bien évidemment.
Il a perdu 2 kilos sous les orteils.
Voilà, c'est ça. C'est bien. Non, bravo Christian. Félicitations.
Je confirme qu'il a perdu.
On retrouvera donc Christian Ricca tout à l'heure. Mais d'ici là, vos questions maison au 32-16. Et on accueille Pierre et sa bâche mystérieuse.
Oui.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue
merci,
Pierre.
Merci d'avoir pris mon appel.
Vous savez que Christian est un peu stressé avec votre question, il ne sait pas trop où il va. Alors. Donc voilà.
Je ne veux pas le stresser.
Non, ça va aller, on s'en sort. Hein. Voilà.
J'ai la chance de vivre dans le Midi, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc j'ai une pergola de 6 mètres sur 5.
Oui, 30 mètres carrés quand même.
Oui, donc j'ai mis une bâche donc, régulièrement, mais la bâche, je le fuse avec les UV. Alors, je voulais savoir s'il y avait un tissu spécial ou un produit spécial qui pourrait empêcher cela.
Ah, d'abord, je serais tenté de vous dire, si vous avez une pergola, pourquoi vous mettez une bâche dessus? Pour pas avoir trop de soleil.
Donc,
exactement. Bon, allez, moi, je vais vous donner deux solutions. La première solution, ça serait Patrick qui pourrait vous la donner. C'est comme à l'ancienne, dans le Midi, faites pousser une plante grimpante et puis ça va vous donner de l'ombrage. Alors, mais bon, d'accord, ça vous donnera aussi des feuilles qui tomberont, mais c'est peut-être pas dramatique. Et puis l'autre solution, c'est qu'on n'utilise pas une bâche, c'est que il faut que vous fassiez l'acquisition de toiles de store, c'est-à-dire une toile de store. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure. Le Nec Plus Ultra aujourd'hui, c'est de la toile micro perforée. En général, c'est deux supports plastiques avec des très petites perforations qui me permettent donc une ventilation relative en sous-face et qui évite donc la surchauffe. Mais je pense que vous n'avez pas d'autres solutions que de passer à une toile de store, quoi, tout simplement.
D'accord.
Ah oui.
D'accord.
Hein,
ça existe dans toutes les dimensions.
Ça existe dans... Alors là, ça vous fait 4 mètres, vous me dites, en largeur, c'est ça?
6 par 5.
6 par 5. Bah, faudra peut-être faire un raccord. Hein. Donc, une entreprise spécialisée sera capable, si c'est du plastique par exemple, enfin quelque chose à base de matière plastique, de matière de synthèse, c'est quelqu'un qui vous fera une soudure hein, pour avoir la surface complète. Après, bon, bah, je sais pas comment vous compterez la fixer, mais il y aura peut-être des anneaux à mettre en place avec un lacet.
Oui, c'est ce que je pensais avec les anneaux.
Ouais, c'est ça. Donc, bah, ça, les anneaux, c'est simple. Hein. Il faut simplement ce qui est le moins simple, c'est pas d'acheter les anneaux, c'est de trouver la machine qui permet de perforer le snore et de sertir les anneaux. Parce qu'il faut que vous fassiez ça, sinon ça se déchirera. Hein, donc, il faut qu'à, je sais pas, à 4-5 cm ou 3-4-5 cm du bord, vous puissiez mettre donc des anneaux qui vous permettent de passer un lacet, entre guillemets.
Oui.
Et donc, de bien tendre votre toile, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que vous devez avoir, si vous utilisez une bâche non ordinaire, vous avez du déchirement, j'imagine, elle a dû se déchirer.
Voilà. Avec le vent,
coup de Mistral, et puis, on n'en parle plus. Donc, là, oui, vous aurez. Alors, vous pouvez aussi. Il y a aussi une autre solution, mais ça, faut que vous voyez dans votre secteur. C'est de la voile de bateau, tout simplement. Hein. Voir un voilier, et donc, mais ça va vous coûter évidemment certainement plus cher, mais ça sera à vie. Hein.
Ça coûte cher la voile de bateau.
Ah oui, la voile de bateau, ça coûte très cher, bien sûr.
Et oui. Il faut dire que c'est résistant à pratiquement tout. Ouais.
Voilà.
C'est ça.
Ok.
Voilà, donc, Pierre.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bon, ça va, vous êtes satisfait de la réponse de Christian, Pierre. Vous savez qu'on
a un
sondage satisfaction des consommateurs, donc
on va être
toujours pertinent, puis Christian, super.
C'est gentil, merci.
Merci Pierre.
Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Au revoir.
Voilà, ça s'est bien passé.
Mais bien sûr.
Je vous sens un peu
stressé.
Un peu quand même.
Ça vient un manque de confiance là. En fait, c'est vous qui stressiez.
Pour vous, parce que je vous aime beaucoup, c'est pour ça. Sylvain est là au 32-7. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour.
Donc, j'ai un petit souci. J'ai deux questions. On a un projet de construction dans l'heure. Donc, c'est une maison plein pied de 135 mètres carrés.
Quand vous dites dans l'heure, c'est pas tout de suite, c'est dans le département.
Oui, c'est dans le département.
D'accord.
Ouais.
Non, parce que je me suis dit, ça va être difficile là tout de suite. Pardon.
Donc, dans le vide sanitaire, on a toujours un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, donc c'est à environ la hauteur d'un demi parpaing. Et donc, je voulais savoir quelles étaient les obligations du constructeur à ce sujet-là et les conséquences sur la construction et la maison à venir.
Alors, vous avez une étude de sol dans votre projet. Bon, il dit quoi ? Il dit pas, il n'y a pas. Vous avez la nappe phréatique à combien ?
Ah non, là, on est sur un plateau donc limono-calcaire, très sableux.
Oui.
Donc, il n'y a pas de couche d'argile, il n'y a pas de source. Donc, mais c'est de l'eau de pluie essentiellement. Hein.
Bon, alors, je vais vous dire une chose, c'est que le vide sanitaire, c'est fait pour ça. Le vide sanitaire, c'est-à-dire c'est sur 2, 3, 4 hauteurs de parpaing, c'est un espace donc vide en dessous de votre maison qui permet de la désolidariser du sol. Alors donc, ça a une double fonction, c'est celle justement de vous garantir contre les inondations, parce que si votre maison était complètement sur le sol sans fondation, sans dalle par exemple, eh bien ça veut dire que vous auriez vos 10 cm d'eau dans la maison purement et simplement. Donc la fonction c'est d'isoler par rapport au sol, d'isoler de façon thermique aussi, et donc d'empêcher l'eau de remonter directement dans la maison. Donc c'est pas anormal, c'est pas tout à fait normal, parce que ça veut dire quand même que vous avez un problème de drainage périphérique de la maison. C'est-à-dire, est-ce que la collecte des eaux, pour l'instant d'abord, est-ce que la collecte des eaux est faite? Est-ce que les gouttières sont posées? Est-ce que les évacuations sont en place?
Non, on en est à la pose de la charpente.
Bon, attendez, vous allez bien voir, attendez déjà d'avoir posé vos gouttières, d'avoir donc canalisé l'eau de pluie qui tombe à cet endroit-là et qui va être évacuée normalement par le réseau. Donc c'est la première des choses, ça sert à cela. L'autre intérêt, c'est que le vide sanitaire permet de passer tous les fluides, ce qu'on appelle les fluides, c'est-à-dire tous les réseaux, en dessous, et de permettre l'accès facilement aux différentes, par exemple, de canalisation, d'évacuation, d'alimentation. Tous ceux qui n'ont pas de vide sanitaire savent qu'à un moment ou à un autre, ils ont été confrontés à la problématique de risquer de casser leur carrelage pour aller chercher où il y avait une fuite en dessous. Donc voilà, moi je dirais que pour l'instant, voyez, assurez-vous auprès de votre constructeur que le drainage périphérique est bien fait, qu'il y a une, d'abord que la bande d'Arras a bien été mise, mais ça, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. C'est la bande qui permet l'étanchéité des fondations par rapport au mur au-dessus. Et puis voilà. Mais donc, pour l'instant, ne vous inquiétez pas trop, mais soyez vigilants parce que il n'y a pas de raison non plus que de l'eau stagne en permanence dans un vide sanitaire. Il faut aussi voir comment l'évacuer.
Merci beaucoup Sylvain, et tout comme Sylvain, vous voulez joindre Christian PC, alors ce sera évidemment pour samedi prochain, puisque l'émission arrive à son terme, n'hésitez pas, tiens, la semaine prochaine on va parler entre autres de barbecue, non,
d'après ce que j'ai compris. on va sortir dans le jardin, s'oxygéner, on va faire des grillades, là, pas trop brûler, hein, nous dirait notre médecin.
Attendez, parce qu'à chaque fois que vous parlez de barbecue à Christian Riquier, il aussi il a des frissons, j'ai l'impression.
Oui, mais quand c'est très bien fait, c'est excellentissime, aussi bien pour la santé que pour le goût et le plaisir. Mais tout le souci, c'est bien le faire et avoir de bons outils. Et je sais que Christian a de bons outils à vous.
Mais forcément, on commentera tout ça la semaine prochaine, Christian. Et on termine avec le coup de cœur donc de Christian PC. C'est le report à l'été 2021 de la réglementation énergétique, la RE 2020.
Voilà, c'est ça. Alors vous m'entendez souvent parler de la RT 2012, réglementation thermique, qui a été établie à partir de 2012 et qui contient l'ensemble des règles qui sont applicables à la construction neuve et aux grosses rénovations en matière énergétique. Alors 2012-2020, ça fait 8 ans, on n'a pas vu venir la nouvelle RT, si j'ose dire, et la réglementation qui doit lui succéder, eh bien, ça va être la RE. Parce que maintenant, on parle de réglementation environnementale.
Ah oui.
Il n'y a plus seulement que le thermique dedans. Il y a aussi tout ce qui concerne notamment l'impact carbone. On y reviendra. Vous savez, il y a quelques temps, je vous ai parlé de la démarche E plus, C moins. C'est-à-dire plus en matière d'énergie et c'était moins en matière de carbone.
C'était pas vos notes, hein, ça.
Non, c'était pas mes notes. Alors, c'est un vaste chantier que cette RE qui, depuis des années, est l'occasion de débats passionnés entre les pouvoirs publics, les professionnels du bâtiment, et les producteurs de matériaux, les filières industrielles elles-mêmes. Alors cette vaste concertation, elle aurait dû déboucher sur la RE 2020 applicable au 1er janvier 2021. Mmh. On en était assez loin quand l'épidémie de Covid-19 est arrivée. Ça a stoppé toutes les discussions, toutes les commissions. Et donc, c'est repoussé à l'été 2021.
C'est plus sage.
Voilà, mais personne ne s'en plaindra parce que on n'était vraiment pas au point. Il y avait vraiment encore beaucoup trop de choses à régler. C'est important pour tous ceux qui, en ce moment, veulent faire construire. Ils seront sous le régime jusqu'à l'été 2021. Ils seront sous le régime de la RT 2020.
Christian Pesset, on se retrouve la semaine prochaine. On sera là, 7h, 8h sur RMC. Portez-vous bien. Et
merci,
dans un instant, Christian Riquier sera à mes côtés pour votre rendez-vous fort maison entre 8 et 9, juste après la météo et les infos. À tout de suite.